Ici Homer Simpson qui dit bonjour à toutes les filles qui sont à l'écoute de notre station.
J'ai jamais changé le monde avant, alors je sais pas exactement combien de temps ça prend, mais si on est assez
long... No problemo!
Camarades, j'ai discuté nuit et jour avec Burns et j'en ai ras-le-bol.
La grève, la grève, la grève!
C'est que pour la grève!
Et en quoi l'éducation peut me rendre plus intelligent? Chaque fois que j'apprends quelque chose de nouveau, j'oublie quelque chose que je savais.
De réglementation du nucléaire. Nous venons vérifier les compétences de vos employés.
Il va y avoir une erreur. Nous fabriquons des biscuits ici.
Vous avez un Homer Simpson dans vos effectifs.
Désolé, il est en voyage.
Oui, il est à Genève. Il préside une conférence sur la fission nucléaire.
Homer, c'est la réplique exacte de votre poste de travail. Nous allons simuler une surchauffe dans le secteur 8 du cœur du réacteur.
Ça va pas la tête de quoi vous parlez. Mais qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? S'il vous plaît, dites-moi ce qu'il faut que je fasse.
Détendez-vous, ce n'est qu'une simulation, il ne se produira rien.
J'appuie à l'aveuglette jusqu'à ce qu'il me laisse partir. Moi, détruire espèce humaine.
Cette centrale viole toutes les lois sur le travail.
Vive l'anarchie.
Voilà, 19h passé de 3 minutes ou 2 minutes à la pendule de la plus rebelle des radios. Il est l'heure du Canu Info en ce jeudi 22 décembre 2016. Et oui, nous sommes toujours là, fidèles au poste. Donc l'équipe du jeudi, c'est comme d'habitude Delphine.
Eh oui, bonsoir à tous et à toutes. Moi, je n'étais pas partie en vacances la semaine dernière. J'étais bien fidèle au poste.
Je n'étais pas en vacances. Et Laurent, et puis nous aurons des invités au milieu de l'émission. Nos amis de la Crimette viendront parler un petit peu de la campagne, des sondages et des choses liées à la politique et aux médias dominants. Donc ça sera pour tout à l'heure, vers 19h30. On va quand même commencer cette émission. Je, d'ailleurs, vais commencer cette émission en parlant un petit peu d'impérialisme. Oui, vous savez, en France, il a toujours été de bon ton de dénoncer l'impérialisme américain. Cette pratique a d'ailleurs souvent été partagée à droite, on se rappelle des grandes phrases de De Gaulle, à gauche, à l'extrême droite, à l'extrême gauche. Bon, au centre, évidemment, mais le centre, c'est tellement mou qu'ils vont un peu là où le vent souffle. Bon, bref. Grosso modo, tous les partis politiques, tous les courants politiques ont été, à un moment ou à un autre, à dénoncer l'impérialisme américain. Certes, les raisons étaient historiques et étaient souvent très bonnes, hein, puisque cet impérialisme des États-Unis d'Amérique a quand même eu un impact, dirons-nous, plutôt négatif sur certains nombres de pays, sur certains nombres de situations, sur des habitants, enfin sur pas mal de choses. Bon. Pendant très longtemps, face à cet impérialisme, il n'a existé en face que la menace rouge ou menace communiste, comme on disait à l'époque dans les journaux de droite. C'est vrai que cette menace rouge, cette menace communiste, hein, qui était le bras armé du communisme à travers hein, l'URSS, hein, puisque c'était l'URSS qui imposait tout du côté opposé à l'impérialisme américain et qui tentait, elle aussi, à travers des actions plus ou moins secrètes, plus ou moins meurtrières, plus ou moins minables, d'imposer ses vues face à l'impérialisme américain. Bon, au final, l'impérialisme yankee a gagné, bravo. L'URSS s'est écroulée, bravo. Fin de l'histoire. Ou pas. En effet, en opposition à cet impérialisme des États-Unis d'Amérique, un nouvel impérialisme russe s'est mis en place suite à l'arrivée, on va dire, peut-être pas au tout début, mais pas loin, de M. Vladimir Poutine à la tête du nouvel empire russe. Je ne sais pas s'il faut appeler ça encore une démocratie ou s'il a fallu jamais l'appeler une démocratie. Aujourd'hui, donc, cette Russie poutinière, à l'image des Américains, hein, tente d'imposer ses vues, sa vision de la politique, de la liberté, ouais, ou plutôt de l'absence de liberté, me direz-vous, à nombre de pays fragiles ou à des personnes légèrement faibles d'esprit, dirons-nous. Et ça marche même plutôt bien. On voit ainsi des politiques de droite, hein, comme M. Fillon, d'extrême droite, comme Marine Le Pen, de gauche, comme Mélenchon, faire moult compliments à Vladimir Poutine. Et je n'invente rien, bien évidemment. Au final, la question que pose le Canu Info, si vous deviez choisir un impérialisme, lequel choisiriez-vous ? Plutôt poutinien ou plutôt yankee ? Alors on va vous aider à répondre à cette question. Grosso modo, si vous choisissez l'impérialisme poutinien, c'est pas mal, parce que vous êtes dans l'air du temps. Vous avez toutes ces belles théories du complot à votre service, ces beaux sites de désinformation comme, bon, le plus célèbre c'est Russia Today, mais il y a aussi lescrises.fr qui relaient et plein d'autres sites conspirationnistes ou désinformationnistes. Vous êtes moderne, vous êtes anti-système. Vous pouvez marcher la tête haute dans la rue, briller en société. Bon, certes, il est parfois pas toujours facile d'assumer les conséquences d'être pro russe, pro-Poutine, notamment, bon, si vous n'êtes pas trop homophobe, hein, là vous êtes un peu mal placé. Et puis bon, si vous n'aimez pas trop les dictateurs sanguinaires comme Bachar el-Assad, bon, mais si vous fermez un peu les yeux, vous pouvez y arriver. D'ailleurs, on constate que pas mal de personnes aujourd'hui, quelle que soit leur couleur politique, y arrivent très bien à supporter, à aimer, à défendre cet impérialisme russe. Bon, si vous choisissez l'autre bord, donc l'impérialisme traditionnel, le vrai, le beau, le fort, le yankee, celui à chapeau de cow-boy. Voilà, vous êtes quand même pas mal ringard, hein, faut le dire. Ça, ça n'a jamais été très bien vu, hein, de défendre l'impérialisme américain. Mais en même temps, si on regarde, c'est quand même un petit peu plus fun. Hein. En tout cas, au bout d'un moment, vous aurez des choses un peu plus fun à vous mettre sous la dent. Puisque dans l'impérialisme américain, il y a un avantage énorme, c'est que toutes les actions secrètes, inavouables, les assassinats, les machins, ça sort un jour. Ça sort et grâce à ça, ben vous avez droit à des chansons, vous avez droit à des livres, vous avez droit à des films, donc un peu de détente. Hein. Tout ce que vous avez supporté, la tête baissée en disant « mais non, 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 c'est pas moi, c'est pas de ma faute, je les soutiens pas » ou « c'est pas eux », et ben à un moment, vous pouvez assumer et regarder ces beaux films sur le Vietnam, sur l'Amérique latine, sur Snowden, sur toutes ces choses que vos amis impérialistes américains ont fait et qui se transforment ensuite en divertissement. C'est quand même le cas de le dire. C'est vrai que du côté russe, ça marche pas pareil. Grosso modo, les lanceurs d'alerte, bah, on n'en connaît pas parce qu'ils n'ont pas une existence assez longue pour arriver jusqu'aux médias, bon, qui n'existent pas non plus vraiment. Hein. Mais bon, s'ils existaient, ils seraient déjà morts, de toute façon. Donc vous n'aurez jamais de film, hein, sur tout ce que peut faire la Russie, même sur les choses que la Russie fait officiellement, du style les massacres en Tchétchénie, le financement du Front National avec les banques russes, l'alliance de Poutine et de l'extrême droite autrichienne, les massacres à Alep, les hackers russes. Bon, même ces choses-là qui sont officielles, vous n'aurez jamais de film dessus. Quant à tout ce qui est fait par derrière, ah ben, contrairement à l'impérialisme américain, ben non, jamais ça ne sortira. Bref, l'impérialisme yankee est un peu difficile à porter en société, hein, à défendre, mais bon, à la fin, vous avez un peu de culture et le divertissement. Donc bref, le choix est difficile. Je ne sais pas vous, moi j'hésite. Bon, finalement, je me dis, je vais peut-être rester anarchiste et rejeter tous les impérialismes. Ça sera quand même un petit peu plus classe. C'est pas aussi facile de briller en société quand on est, quand on rejette les impérialismes tous, et notamment l'impérialisme russe qui est à la cote et qui est à la mode. Mais bon, avec un bon petit t-shirt rouge et noir, une bonne petite, un bon petit encerclé, je vous le dis, ça peut marcher. Hein, bon repas de Noël et bon Noël. Enfin bon Noël. Ça dépend de votre situation. Vous avez peut-être vu qu'un jeune homme de 22 ans a été condamné lundi à 3 mois de prison ferme pour avoir volé une bûche de chèvre dans un supermarché de Toulouse. Il indiquait au juge ne pas avoir mangé depuis 3 jours. Bon, 3 mois de prison ferme, ça fait quand même beaucoup pour un bout de fromage. Mais attention, la justice n'est pas toujours aussi méchante. Non, bien heureusement. Des fois, elle est clémente. On a noté, et vous avez tous noté, que la directrice générale du Fonds monétaire international, Christine Lagarde, a été reconnue coupable lundi de négligence ayant mené à un détournement de fonds publics dans l'affaire Tapie, 403 millions d'euros. Bon, ça doit faire des millions de petits fromages. Bon, elle a été reconnue coupable, mais elle a été dispensée de peine en raison notamment de sa réputation internationale.
Cool ?
Non. Bon, bref, ami pauvre, avant de voler, et notamment voler de quoi manger, travaille un peu ta réputation à l'international, ça peut te sauver. Voilà. Bon, bref, bon Noël, bonne justice de classe. On va quand même essayer de faire un canut info. Malgré ces nouvelles et ces choix que nous aurons à faire un jour, ou pas d'ailleurs. Et nous parlerons dans ce canu info du Maroc, des barbares, d'Avignon, hein, qui parle de girafes. Avignon.
Ouais, alors ça, j'ai ça dans mon déroulé, c'est toi énorme. Qui vas en causer. Auditeur, ami auditrice, c'est le sujet.
C'est mon sujet préféré, les girafes et Avignon. Ça concerne les cathos, hein, ça, je vous le dis d'avance. On parlera des faiseurs de paix basques, on parlera des lanceurs d'alerte, on aura Acrimed, comme on l'a dit. Et ensuite, quelques petites infos environnementales et sur les médias aussi, j'ai oublié, en cours de route. Donc voilà, le déroulé risque d'être dans un sens un petit peu perturbé, suivant l'arrivée d'Acrimed qu'on attend. Donc en attendant, je vais ouvrir avec le Maroc et le Sahara occidental. Alors, quelle est l'affaire aujourd'hui sur le Maroc? Et bien en fait, c'est la Cour de justice européenne qui a tranché un différend. Donc, sur l'accord de libre-échange en matière d'agriculture et de pêche, un accord qui a été conclu en 2012, hein, entre l'Union européenne et le Maroc, et qui n'est pas applicable au Sahara occidental, et qui n'a pas donc pu être annulé à la suite de la contestation soulevée par le Front Polisario, vous savez, c'est les rebelles. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'hier, c'est un peu compliqué l'affaire au départ, enfin, ou pas d'ailleurs, en 2012, l'Union européenne et le Maroc conclut un accord de libre-échange. Et dans cet accord de libre-échange, qui concerne les produits agricoles et la pêche, bah, ça inclut vraisemblablement la partie occupée illégalement, c'est-à-dire le Sahara occidental, par le Maroc. Sur ces entrefaites, le Front Polisario, donc la partie rebelle du Sahara occidental, dépose plainte. Et le 15 décembre 2015, le tribunal de l'Union européenne rendait un arrêt qui était historique, qui annulait l'accord, donnant raison aux indépendantistes du Front Polisario, en disant le tribunal, enfin en disant très exactement, les accords d'association et de libéralisation sont applicables au territoire du royaume du Maroc, ça c'est ce qui était prévu, mais que ça, donc d'office, bah, ça incluait le Sahara occidental, puisqu'il est quand même occupé officiellement par le Maroc. Par conséquent, le Front Polisario, qui était concerné par l'accord, était donc qualifié pour demander l'annulation et confirmer donc l'annulation, parce qu'ils n'avaient pas été questionnés sur le sujet. Alors là, c'était un gros pataquès. Bon, hop, là, hier, la Cour de justice de l'Union européenne a dit non, pas du tout. Ça ne concerne pas le Front Polisario, cet accord, parce que ça ne concerne pas le Sahara occidental. Donc c'est à la fois un revers, mais une bonne nouvelle, puisque l'Union européenne rappelle que le Sahara occidental n'appartient pas au Maroc, donc l'accord ne doit pas concerner cette partie-là, et rappelle que l'ONU, que dans la charte de l'ONU, il y a le principe d'autodétermination des peuples, qui concerne donc les Sahraouis. Bon, bref, gros bordel, gros désaccord, les tribunaux européens se renvoient la patate chaude, se contredisent. Bon, aujourd'hui, l'accord, il est passé, mais il n'est pas censé concerner la partie du Sahara occidental. Bon, on rappelle que ce territoire qui est revendiqué par le Maroc, qui est occupé par le Maroc, à 80%, 20% est pour l'instant occupé par le Front Polisario. On attend depuis des mois, des années, un référendum que l'ONU s'est engagé à organiser, mais personne n'a le courage de le mettre en œuvre. Personne. Parce que tout le monde sait qu'il y a quand même de grandes chances les habitants, les Sahraouis, disent non à l'occupation du Maroc. Sauf qu'il y a un gros problème, c'est que le Maroc a fait un peu ce que faisait Staline à la grande époque soviétique, c'est-à-dire pour être sûr, parce que si un jour il y a un vrai référendum, que ce soit de leur côté, ils ont fait des déplacements de population, ils ont installé des Marocains dans cette région-là. Donc suivant le corpus électoral, comme on dit, si on prend que les Sahraouis, ils vont vouloir être autonomes. Si on prend les Marocains qui ont été installés, c'est l'inverse. Du coup, il y a quand même une grosse bataille là-dessus. Et pour l'instant, rien n'avance. Personne, aucun pays occidental, aucun pays du monde d'ailleurs, n'a le courage, enfin, de remettre le Maroc à sa place, c'est-à-dire dehors. Voilà. Voilà pour cette petite news sur le Maroc.
Alors, on va parler des barbares. Vous vous souvenez de Naed Attar, Naed Attar, c'est ce journaliste, cet écrivain qui avait été arrêté en août. Il avait été finalement relâché et en septembre, c'était le 25 septembre, il avait été assassiné alors qu'il se rendait à son jugement au tribunal d'Amman. En fait, il allait être jugé. Il était jugé pour avoir partagé une caricature d'une autre personne, c'est-à-dire c'est pas lui qui avait dessiné cette caricature, et son assassin avait été assez rapidement arrêté. Il s'agit de Riyad Ismaël, et en Jordanie on fait pas les choses à moitié, puisque Riyad Ismaël a été condamné cette semaine à la peine de mort par la cour de sûreté de l'État jordanien. Il devrait être pendu. Oui, on n'est pas en Arabie Saoudite, on n'est pas avec le sable, il devrait être pendu. Il était accusé de meurtre prémédité, d'acte terroriste, de possession illégale d'armes à feu. Je ne sais pas ce qu'on penserait Naed Attar de savoir que son assassin va être condamné, est condamné à la peine de mort et va être exécuté. Je vous rappelle que Naed Attar, il était athée, ce qui en Jordanie n'est pas une mince affaire. Il s'était souvent mis en avant. Voilà, c'est assez bref ce que j'ai à en dire. En fait, c'est que là, on est dans la caricature de la justice. Hein, c'est bien le cas de le dire. C'est-à-dire qu'on va aller exécuter l'assassin de Naed Attar et ça lui rend certainement pas hommage. Alors, on va en venir aux fameuses girafes, si tu veux bien.
Ouais, ouais, ouais. Alors, les girafes.
Avignon, ouais.
Ouais, ben, c'est un truc sympa. Alors, j'ai chopé ça sur un site de facho qui s'appelle Riposte Catholique. Un bon site de faf. Hein. Donc, l'extrême droite, la belle. Hein. Donc, ils ont publié une info sur la manière dont la municipalité, qu'ils qualifient de socialiste, bien évidemment, mais c'est vrai, a prévu de célébrer Noël cette année, notamment avec une affiche et un bout de festival, qui a énervé d'ailleurs Monseigneur Jean-Pierre Quatennens, l'évêque d'Avignon. Donc, qu'est-ce qui s'est passé lors de... Pour reprendre les propos, on va en fait découvrir l'affaire à travers les propos de Monsieur Jean-Pierre Quatennens, donc cet évêque. Donc c'était le 19 décembre, il a fait son message de Noël à la presse. Et il a dit qu'il n'était pas d'accord du tout avec la présentation de Noël par la mairie socialiste d'Avignon. Donc il s'est expliqué pourquoi, nous on ne comprend pas. Et il a dit que ce Noël qui s'appelle Noël Autrement, hein, c'est ces festivités qui sont organisées donc par la ville d'Avignon, il n'était pas d'accord avec l'animal qui se trouve sur l'affiche, qui est le fil conducteur un peu de ces festivités, qui est une girafe. Donc cet animal africain, qui est le trait d'union entre les différents événements, tels que c'est présenté par la cité, la ville, a vraiment atterré, pour reprendre ses mots, Monseigneur Quatennens. Alors, pour lui, il n'y a pas de logique à utiliser cet animal africain. Il est allé encore plus loin. Donc il a dit qu'il y avait une négation des fêtes de Noël, ça touchait la famille, enfin il a fait son discours de cato coincé comme d'habitude. Et il a attaqué une deuxième fois les gens de la région, notamment Carpentras, qui est toujours dans le Vaucluse, puisque eux aussi ils ont un festival Noël qui s'appelle Noël Insolite. Et là, il a découvert, ce Monseigneur Quatennens, que dans ce Noël Insolite, il présentait d'autres festivités de cette époque-là, à travers d'autres pays du monde, et qu'il y avait la Chine invitée, et qu'il y avait un dragon chinois. Pour parler des festivités qu'il peut y avoir à cette époque-là en Chine. Et lui, il a trouvé ça horrible. Bon, bref, on découvre que cet archevêque, hein, donc un religieux très traditionnaliste, voire très raciste, aime pas du tout le mélange de ces éléments non chrétiens et surtout non français. Hein, il a attaqué donc la girafe africaine, le dragon chinois, alors que les présentations étaient toutes plus sympas, c'était ouvert aux enfants, c'était... Enfin, il y avait la municipalité n'avait même pas pensé à mal en faisant ça, en fait. C'est juste que lui est tellement coincé que ça cassait l'image qui donne l'image traditionnaliste de la fête de Noël telle que le prévoient les chrétiens. Du coup, il a pas aimé. Bah bon, il faudrait juste rappeler à ce religieux un tant soit peu révisionniste, hein, que la fête de Noël n'a pas toujours été chrétienne, hein, c'est une invention, une récupération, un vol, une modification, vous appelez ça comme vous voulez. Il y avait des fêtes à cette époque-là, au 25 décembre en général, quelquefois quelques jours avant, notamment la plus connue c'était le Sol Invictus, hein, qui était fêté chez les Romains, qui était grosso modo des fêtes liées au solstice d'hiver. hein, le moment où la durée du jour est réduite au minimum. Il y a des fêtes dans toute l'Europe à l'époque, notamment dans la partie romaine, et l'Église catholique a phagocyté toutes ces fêtes, les a récupérées et les a transformées pour amener sa vision de Noël. Bon, voilà. Ce qui est dommage en plus pour ce religieux, c'est que ça tombe très mal de mettre à l'index la girafe, puisque c'est la semaine où la girafe est revenue sur le devant de la scène, puisque les pauvres girafes sont des beaux animaux en voie de disparition, hein, puisque jusqu'à maintenant, la girafe n'était pas classée, hein, dans les animaux en disparition, en voie d'extinction, comme on dit. Enfin, y a plusieurs classements, plus ou moins rouges, plus ou moins forts, plus ou moins alertants, plus ou moins excitants. Enfin bon, bref, quand un animal est classé dans une des multiples listes, c'est quand même très mauvais signe. Et donc là, effectivement, c'est l'Union internationale pour la conservation de la nature, hein, qui a placé les girafes dans la liste rouge, hein, puisqu'ils estiment qu'il y a une baisse de 40% ces 30 dernières années de la présence des girafes. Donc voilà, donc c'est dommage quand même que ce prêtre, enfin c'est pas un prêtre, hein, j'ai dit, c'est un archevêque carrément au-dessus, n'aime pas non plus les girafes, la cause animale, parce qu'il aurait eu l'air un petit peu plus intelligent en étant un peu plus ouvert, un peu plus tolérant. Donc voilà, c'est juste un petit exemple de ce que peut donner l'intégrisme religieux. Bon, ça s'est passé à Avignon, une ville qui pourtant accepte les crèches avec les santons, tout ça, tous les trucs que les cathos veulent absolument. Mais il ne faut pas mettre de girafes, s'il vous plaît, sur les affiches de Noël. Ça passe mal.
Alors, est-ce que tu veux poursuivre avec les faiseurs de paix ou je non. te laisse respirer avec les lanceurs d'alerte, comme tu le souhaites.
Fais-moi les lanceurs d'alerte. Là.
Alors, j'avais envie de vous raconter l'histoire de Joël Boissard. J'avais mis ça de côté pour cette émission avec nos amis d'Acrimed 69. Alors, on peut déjà dire que la Suisse est classée 7e sur les 180 pays au classement mondial de la liberté de la presse de Reporters sans frontières, hein, pour 2016. Donc, on va dire que c'est plutôt un bon classement. A priori, hein, comme ça, 7e, c'est pas si mal. Alors, l'histoire de Joël Boissard, elle est un peu symptomatique de ce qui se passe un petit peu de partout. Il est journaliste à la RTS et en mars 2015, il va révéler qu'il y a une faille dans le système genevois de vote par Internet. Cette faille permet à des électeurs de voter deux fois. Alors, son reportage a eu des conséquences, mais pas forcément celles auxquelles vous pouvez penser. Le 1er novembre dernier, il a été jugé et il a pris, dans une ordonnance pénale de 3 pages, le procureur fédéral Marco Reyna l'a reconnu coupable de fraude électorale et l'a condamné à des jours amende avec sursis. Alors, comment est-ce qu'on en est arrivé là? Vous allez me dire, alors c'est tout simple, il faut remonter à début 2015. Joël Boissard déménage de France pour s'installer à Genève. Quelques semaines plus tard, il reçoit deux fois le matériel de vote portant sur la votation fédérale et cantonale du 8 mars 2015. Une fois en tant que Suisse résident à l'étranger et en tant que Suisse résident dans le canton. Et ça, c'est pas normal. C'est déjà un problème. Et alors, Joël Boissard, c'est là où il y a la petite ironie de la chose, c'est qu'il a fait plusieurs reportages sur le vote et le vote électronique en particulier. Et donc, ça le questionne tout de suite. Hein. Vous voyez, il est un petit peu curieux. Alors, il veut vérifier s'il peut voter deux fois sur Internet. Sur le coup, il se dit que ben non, ça va pas marcher. C'est d'ailleurs bien pour ça qu'il le fait, je pense. Parce qu'en fait, quand on le lit dans la presse suisse, il pensait qu'il allait avoir un truc, une alerte, quelque chose. Et ben non, en 4 minutes, il va voter deux fois. Il a tout à fait pu le faire. Là-dessus, 3 heures après, il contacte la chancellerie d'État par téléphone et par mail, hein, quand même. Il donne de lui. Il explique la situation. Il veut savoir si le deuxième vote est pris en compte. Et puis, il annonce que, avec une grande transparence, qu'il va réaliser un reportage pour la RTS là-dessus. Et il apprend 3 semaines après la diffusion de ce reportage que la chancellerie d'État l'a dénoncé auprès du procureur général genevois pour fraude électorale. Ce procureur général va transmettre le dossier à un procureur fédéral et là-dessus, Joël Boissard se retrouve devant la même cour qui juge les grands criminels comme les terroristes et les mafieux. C'est quand même assez incroyable. Je vous rappelle, c'est un journaliste de la RTS, hein, quand même. Alors pour sa défense, Joël Boissard, il explique qu'il était bien obligé d'essayer de voter deux fois pour savoir s'il y avait une faille dans le système. Il est journaliste, c'est son métier un petit peu de tester. Il n'est pas là juste pour être dans le factuel et dans l'observation.
l'émission, il teste, hein, il donne de sa personne. Et puis il fait remarquer que il a contacté la chancellerie d'État et qu'il a donné l'information, qu'il a essayé, il a pas essayé d'être dans la tromperie, il est pas, c'est pas un hacker. Et pourtant, le procureur général n'a tenu aucun compte du contexte de cette infraction, ne l'a pas du tout reconnu non plus dans sa position finalement de journaliste, ou même tout simplement, on va dire, de citoyen finalement, de votant, hein, parce que ça pourrait être aussi le cas. Alors Joël Boissard et la RTS ont décidé de répondre à ce jugement du 1er novembre dernier. Donc ils vont porter l'affaire devant le tribunal pénal fédéral, qui va statuer normalement début 2017. Il y aura un procès public. Alors normalement c'est fini, on peut plus voter deux fois, il semblerait qu'ils aient changé les choses. Et voilà, c'est intéressant quand même, dans un pays comme la Suisse, classé 7e, c'est pas si simple quand même de faire son métier. Voilà.
Ils sont 7e, peut-être qu'ils vont reculer avec cette affaire, puisque ça mériterait quand même de perdre quelques places, de mettre un journaliste en prison, alors que lui-même dénonce les fraudes possibles.
Alors t'es faiseur de paix, s'il te plaît.
Alors, entre deux problèmes de respiration, je vais essayer de parler. Oui, mais faiseur de paix, c'est la bonne nouvelle. On en avait entendu parler la semaine dernière, suite à l'arrestation là, de 5 personnes, donc c'est dans le Pays Basque français que ça se passe, 5 militants qui se réunissaient et qui participaient au démantèlement d'une partie de stock d'armes de l'ETA. Vous savez que l'ETA, par une décision qui date maintenant d'un petit moment, a décidé de déposer les armes, mais qui sont encore, ils ont pas mal d'armes encore de côté. Du coup, il y a toute une procédure que l'ETA a acceptée de la part d'un certain nombre de personnes pour récupérer les armes, soit les détruire, soit les redonner à l'État, enfin trouver un moyen de désarmer l'organisation, puisqu'elle a décidé de poursuivre de manière non armée sa lutte pour l'indépendance du Pays Basque. Donc ces 5 personnes ont été arrêtées manu militari par la police française, alors que tout le monde savait qu'ils se réunissaient, un coup juste pour faire mousser un petit peu les gendarmes qui doivent s'ennuyer, ou les policiers qui doivent s'ennuyer un petit peu en ce moment, qui ont certainement rien d'autre à faire que d'arrêter des militants qui œuvrent plutôt pour la paix. Alors sur le coup c'était quand même pas mal inquiétant, ça a pas mal réagi, il y a eu des soutiens d'ailleurs de tous les côtés politiques dans la région, aussi bien à droite, aussi bien qu'à gauche, parce qu'il y a eu quand même des questionnements sur l'intérêt d'arrêter ces militants. Et finalement, la bonne nouvelle qui est arrivée mardi, c'est que ils ont été libérés. Par contre, ils restent placés sous contrôle judiciaire. Donc le parquet ne retire pas les plaintes, continue de les poursuivre. Alors, on verra ce qui va se passer, la mobilisation continue. C'est quand même une drôle d'affaire que cette répression permanente de la part de la France et de l'Espagne contre les militants indépendantistes, même quand ils sont pacifistes. Il y a une vraie volonté d'essayer d'écraser définitivement tous ces gens qui pensent pas comme le voudrait le gouvernement et l'État centralisateur, c'est-à-dire que il faut pas dire qu'on veut une région autonome, indépendante, quelle que soit d'ailleurs la forme de l'indépendance, puisque là on est plutôt du côté de la gauche avec l'ETA. Pas du tout, donc la répression continue sur ces militants. Eux c'était juste des militants qui intervenaient au niveau intermédiaire, là, juste pour s'occuper des questions d'armes. C'est des gens qui sont pas membres de l'ETA, il y en a un qui a fondé Alternativa, c'est plutôt des gens qui ont l'air cool, quoi, plutôt pacifistes, et pas du tout du gros militant qu'on pourrait imaginer indépendantiste, mais a priori les policiers font pas la différence.
Alors, nos amis d'Acrimat 69 nous ont rejoints dans ce beau studio de Radio Canu. Bonsoir Jacques, bonsoir Pascal. On est bien content de vous retrouver pour cette nouvelle saison. On espère que vous reviendrez pour 2017. Alors, vous avez souhaité un petit peu revenir, je vais aller très très vite, sur le traitement médiatique des élections et sur ces fameux sondages. Alors, lequel d'entre vous a envie d'ouvrir la danse ?
Alors, il est prévu que c'est moi. Je regarde mon collègue Jacques. Oui, c'est moi. Oui, alors effectivement, on voulait revenir sur les élections à 2017, puisqu'on est, on va dire, les deux pieds dedans. Et il semble, on n'a pas de raison particulière d'avoir un moral d'acier, puisqu'il semble que de toute façon, ça va se jouer au final entre la droite extrême et la droite dure. Donc, on n'a pas fini d'en baver. Cela dit, on voulait juste rappeler en quoi cette situation doit quelque chose aux médias dominants. Alors, l'expression de médias dominants appelle peut-être quelques explications. Donc, on pense ici aux chaînes de télévision et de radio à diffusion nationale, de TF1 et RTL, BFM, TV, France Inter, etc. On pense à la presse écrite payante ou gratuite, Monde, L'Express, Direct Matin, etc. Autant de médias qui n'ont cessé, avec des petites variations dans le niveau d'injonction, qui n'ont cessé depuis 30 ans de nous chanter sur tous les tons les louanges du modèle libéral. Les vertus des réformes économiques et sociales imposées à marche forcée par les ultralibéraux de la Commission européenne. Et de nous vendre aussi une sorte d'état d'urgence médiatique permanent, avec le matraquage dans les unes, dans les dossiers, dans les articles, dans les reportages du thème de l'insécurité, et plus encore aujourd'hui, évidemment, avec le risque terroriste. Alors donc, on est dans ce climat idéologique-là, hein, qu'on connaît, et qui surdétermine déjà largement les élections et les attitudes des électeurs. Mais comme si ce n'était pas suffisant, on continue en période électorale de réduire autant que possible les possibilités de débat et de choix pour les électeurs. Alors on va prendre deux petits exemples, Jacques et moi, là, qui ont fait l'objet d'ailleurs d'articles sur le site d'Acrimed. La question des sondages et celle de la surexposition médiatique de certains candidats.
Alors, je ne vois pas du tout de qui tu veux parler.
Voilà. Alors, sur les sondages, alors bon, on est dans une situation quand même un peu particulière. J'avais lu un article d'un spécialiste de cette question, Alain Garrigou, qui est un politologue et qui donne des articles de temps en temps au Monde diplomatique. Il a un blog qui s'appelle Régime d'opinion, et où il étudie assez régulièrement les sondages, hein, et puis tout ce qui se passe autour des sondages, hein, le débat autour des sondages. Et il commence un de ses derniers articles en disant qu'on n'a jamais vu ça de mémoire de sondeur. Alors effectivement, on se rappelle tous qu'il y a eu de monstrueuses bévues et de monstrueuses erreurs des sondages récemment. Alors on va en prendre les exemples qui nous viennent immédiatement à l'esprit. Alors le Brexit, puisqu'il était prévu que les Anglais sagement votent pour le maintien dans l'Union européenne, et ça n'a pas été le cas. L'élection évidemment de Donald Trump aux États-Unis. Alors juste une petite parenthèse, j'ai trouvé sur le site le Huffington Post, qui est un site internet qui fait partie du groupe Le Monde, un tableau qui permet de voir qu'entre mai 2015 et novembre 2016, c'est-à-dire quand il y a eu l'élection de Trump, il y a eu en tout 376 reports de sondages qui ont été réalisés, et sur ces 376 sondages, 346 d'entre eux donnaient la victoire à Hillary Clinton et 30 seulement à Donald Trump. Et puis on a encore sans doute en mémoire le fiasco de la primaire de droite, des primaires de la droite, hein, puisque il était acquis, évident, ça nous était on pouvait asséner à peu près dans tous les éditoriaux et dans toute la presse que ben il y avait un candidat qui allait être au-dessus de tout le monde, Alain Juppé, derrière lequel se débattait tant qu'il pouvait Nicolas Sarkozy pour tenter de le rejoindre. Et puis il y en avait un derrière dont on parlait pas beaucoup, et ils avaient pas beaucoup d'intention de vote, et François Fillon évidemment. Et il se trouve qu'une semaine avant les élections, il était encore donné perdant. Et donc en une semaine, il a gagné 20 points dans les sondages. Bon, c'est quand même tout à fait extraordinaire. Alors évidemment, on est dans une situation où ça nous interroge bien sûr sur la fiabilité, hein, des sondages, la capacité des sondages à savoir lire l'opinion publique, hein, puisque c'est ce qu'ils prétendent faire, voilà. Mais bon, ça n'interroge pas très longtemps en règle générale les journalistes. Alors on a le droit dans ces cas-là, quand il y a des énormités de ce genre-là, on a le droit pendant quelques temps dans la presse à quelques mea culpa bien sentis de la part des éditorialistes qui accusent d'ailleurs les instituts de sondage. C'est eux qui se sont trompés, et c'est pas eux qui pourtant les journalistes des grands médias dominants, qui pourtant les commanditent, qui pourtant les commentent en permanence. Voilà, qui sont fautifs, évidemment. Voilà, alors donc, je ne me retrouve plus, enfin, je me replonge dans mon... mais ce petit temps, si on peut dire, de doute, hein, à l'égard des sondages, il dure en général pas très longtemps. D'ailleurs, ce petit temps de doute, on va dire, ça fait aussi le buzz. C'est-à-dire qu'il y a une logique médiatique qui fait que, comme le nouveau est toujours très très important, hein, c'est la loi qui règne, le nouveau, une nouvelle va chasser une autre, etc. Et ben là, on va parler pendant quelques temps, on va ouvrir, on va donner la parole à tous ceux qui ont quelque chose à dire contre les sondages, et puis on va oublier automatiquement, dès qu'il s'agit, quelques semaines, voire l'indécence là n'a pas de limite, quelques jours plus tard, dès qu'il s'agit de commander de nouveaux sondages et de les commenter. Alors, il y a dans le journal Le Monde, l'éditorialiste Gérard Courtois, qui expliquait dans une interview assez récente, donc qui se passe après toutes ces bévues sondagières donc, que je viens d'évoquer, le 17 novembre. Donc, en introduction à un sondage, il introduisait un sondage Ipsos qui était réalisé par Le Monde, commandé par Le Monde, etc. Et il nous disait, j'ai retenu que le titre, mais évidemment tout l'article devrait être cité tellement c'est très intéressant de l'entendre. Les sondages sont des ressorts essentiels de la dramaturgie de la campagne électorale. Oh, c'est beau. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'ils font partie du théâtre, voilà, et il faut l'admettre comme tel. Voilà, la dramaturgie, au fond, il faut admettre les choses comme celle-là. Évidemment, ça pourrait faire finalement rire les sondages, on pourrait dire finalement il n'y a pas beaucoup d'impact, sauf que les sondages ont un impact de plus en plus important dans la vie politique, quand bien même les évidences de leurs erreurs apparaissent au grand jour. Alors, on pourrait citer deux exemples pour montrer que les sondages sont de plus en plus importants. La primaire de la gauche, récemment, donc il y avait 9 candidats dans un premier temps. Voilà, il y en a que 7 qui ont été retenus finalement et qui vont combattre pour obtenir le suffrage le plus important pour représenter la belle alliance populaire. Ouais. Il y a les chargés de communication, ils ont
bossé là.
Ah non, là c'est quand même exceptionnel quoi. Enfin, plus c'est fort, plus c'est gros, plus ça passe. La belle alliance populaire. Alors donc il se trouve qu'il y avait un de ces candidats, alors j'ai pas spécialement d'atome crochu personnel avec lui, qui s'appelle Gérard Filoche, dont la particularité c'était d'avoir un discours, on va dire, un tout petit peu différent de ce qui se disait par ailleurs. Alors la particularité, c'est qu'on ne l'a pas entendu parler dans la réalité, dans toute cette période. C'est-à-dire qu'on aurait pu imaginer qu'un nouveau candidat, il est intéressant parce qu'il va apporter des idées nouvelles, parce qu'il va ouvrir les perspectives dans les débats, etc. Mais ce qui surdétermine l'attention des journalistes et la sélection qu'ils font des différents candidats, c'est de se poser systématiquement la question de savoir du poids électoral qu'il pèse. Bon, combien il représente ? Qu'est-ce qu'il pèse, ce Gérard Filoche ? Et comme il ne pèse pas grand-chose, évidemment, les journalistes considèrent que c'est un candidat, pour reprendre leur expression souvent utilisée, inutile. Voilà, il ne sert à rien. Il ne sert à rien parce qu'au fond, il ne risque même pas de gagner. Donc, à quoi bon lui donner la parole et l'écouter ? Donc là, c'est une forme de réduction de l'espace des prises de position possibles. Par cette attitude qu'on pourrait qualifier d'une mentalité sondagière qui est très présente dans les médias. Alors, ce qu'il faut savoir en continuité de ça, c'est que les règles, je ne sais pas si vous en avez parlé ici, mais les règles des temps de parole pour les élections présidentielles ont été modifiées par le gouvernement socialiste en avril 2016 et il a changé les règles. C'est-à-dire qu'auparavant, ce qui se faisait, c'est qu'il y avait une égalité formelle entre chacun des candidats, temps égal de parole au moment de la campagne officielle, hein, la plupart du temps c'est entre 4 et 5 semaines avant. Et là, les règles ont été modifiées puisque ce temps d'égalité formelle reste et demeure pour les deux dernières semaines juste avant l'élection, mais auparavant, il est possible de donner la parole de façon différente à tous les candidats, en particulier, et c'est le CSA qui fera le gendarme ici de ce genre de choses, ceux dont on considère qu'ils sont les plus représentatifs. Autrement dit, il y a une nouvelle règle qui s'applique, qui est celle qui consiste à mesurer la représentativité des différents candidats, la représentativité politique, le poids politique qu'ils peuvent être supposés avoir, et de leur donner la parole en proportion à ce poids. Bon, alors il se trouve qu'un truc intéressant, c'est que le CSA a introduit, alors bien entendu, il y a le résultat du parti dans les dernières élections, bien sûr, qui est pris en considération, mais il y a aussi un nouveau instrument de mesure, ce sont les sondages. Alors, c'est extraordinaire, c'est les résultats faits par les derniers sondages. Autrement dit, c'est une logique implacable, plus vous passez à la télé, plus vous êtes sollicité par les journalistes, plus vous faites des plus vous êtes visible et plus vous avez la possibilité d'avoir des sondages évidemment importants, des gens qui vous reconnaissent, etc. Et donc, alors c'est un système qui a pour particularité évidemment de favoriser très très largement la bipolarisation ou la tripolarisation, parce que maintenant on est un peu le PS, les Républicains, puis d'un autre côté le FN maintenant. Et ben ça a tendance à éliminer d'autant plus du débat et de la possibilité d'expression dans le débat une large partie des petits candidats, d'ailleurs, qui se sont un petit peu révoltés quand il y a eu un tollé là qui s'est développé, qui a pas duré longtemps parce que c'est pas genre un truc qui est très relayé, mais par les petits partis qui ont évidemment de moins en moins prise sur leur expression politique. Voilà.
Ouais, mais les sondages, faut pas oublier que ce sont des entreprises privées qui les organisent. Il faut pas se tromper non plus, c'est un commerce. Donc ça sert le spectacle aujourd'hui de ces élections entre les primaires, parce que franchement, tu disais on a les deux pieds dedans. Je pense qu'on est même jusqu'au cou, la merde. Hein, excusez-moi l'expression, mais on est bien dedans. Et donc déjà, on est dans un système aussi où il y a de l'amitié entre politique et patron. Donc tout ça est au service quand même d'une belle machine dans laquelle nous on a pas pied. Ce qui est marrant, c'est de voir comme des sites sur LCI ou Le Figaro sur leur site internet, à chaque fois vous avez des sondages quotidiens tous les jours, on vous propose d'aller cliquer. Ça nous donne cette illusion de participer à la vie démocratique, de pouvoir donner notre avis, sauf que si moi je le fais sur le site du Figaro, c'est parce que je suis pas de droite et que donc j'ai envie de contrecarrer la réponse que je sais qui va apparaître sur le Figaro, ou à l'inverse, si je vais le faire sur un site dit... de gauche, je le fais et puis quand je vois le résultat, je vois des gens qui sont d'accord avec moi, donc j'ai l'impression d'avoir raison et d'être quand même entouré aussi. Donc tout ça c'est du faux et c'est vraiment moi ce que j'appelle le spectacle et l'illusion, alors qu'on n'a pas la main mise du tout sur ces sondages. Et puis comme je vous le disais lorsque nous avons échangé avant cette émission, moi quand même je remets la coupe de l'hypocrisie à France Info, qui comme tu le disais a fait son mea culpa après les différentes élections, Trump, la primaire, ils se sont gourés, tous leurs sondages étaient faux. Ça a duré 2-3 jours, la main sur le cœur, et puis la tête un peu baissée pour nous dire qu'ils s'excusaient. Et puis pof, on est reparti, comme tu le disais exactement maintenant. France Info, ils sont très doués, parce qu'ils nous les ont déjà fait le coup l'année dernière, ils nous le font à chaque fois. C'est un cercle vicieux quand même, je trouve, ces sondages.
Tout à fait.
Alors, il y a des stars quand même.
Oui, alors le spectacle, il va encore en être question. Oui, alors la dégradation des pratiques du journalisme politique, s'observe aussi en période électorale, en période préélectorale même, à travers avec le phénomène de la surexposition médiatique de certains candidats. Alors évidemment, le cas d'Emmanuel Macron est pour le coup un exemple, on pourrait dire caricatural, mais sauf que c'est la réalité. Hein, de la manière dont un micro-événement politique se transforme en un macro-événement médiatique. Jeu de mots. Dès le 31 août, c'est un véritable tsunami médiatique qui s'est constitué autour d'une information, on pourrait dire objectivement sans grand intérêt, ou du moins très ordinaire, on pourrait dire la démission de l'ancien ministre de l'économie de François Hollande. Alors cette démission, elle a été présentée par tous les médias dominants comme l'événement politique numéro 1, et comme le geste fort d'une personnalité insoumise et libre. Alors, petit florilège de la presse nationale, de Libération, qui titre « L'auto-entrepreneur », toujours une double sens chez Libération, je cite « Macron reprend sa liberté » dans La Croix, en passant par « Macron quitte le navire et torpille Hollande » du Figaro. Alors, la presse, évidemment, quotidienne, régionale, n'est bien sûr pas en reste. Hein. Le départ de Macron est avant tout le geste, je cite, d'un électron libre, pour le Dauphiné libéré, d'un homme pressé, pour Ouest France, et d'un trublion qui s'en va et qui voit plus loin. Ça, c'est pour l'indépendant. Il faut dire que la presse nationale, dans sa grande majorité, s'était déjà montrée particulièrement complaisante tout au long des mois précédents avec cet homme politique, en mobilisant autour de sa personne toutes les pires méthodes du journalisme de racolage. Et la presse dite sérieuse n'a pas eu grand-chose à envier de ce côté-là, la presse people. Nouveau florilège, l'Express parle de bombe Macron, l'Obs de fusée Macron, décidément, le Point d'homme qui dérange, le Parisien qui entend nous mettre dans le secret des visions de Macron, Challenge parle d'un phénomène Macron en prétendant nous révéler ses projets, ses mystères, ses parrains. Alors que VSD nous présente non pas la stratégie politique de Macron, mais sa stratégie amoureuse. Avec Brigitte et Emmanuel Macron, un couple pour l'Élysée. Et que pour Paris Match, Madame Macron se confie naturellement autour des photos intimes du couple. En fait, pour capter leur lectorat, qui est de plus en plus rare, hein, il faut bien le dire, on voit que les journaux se font battleurs, en fait, hein, l'utilisant désormais le registre de la, on l'a dit tout à l'heure, de la dramaturgie, mais aussi un traitement, on pourrait dire, vedettarisé, hein, des candidats, et le modèle du feuilleton à suspense, ou faux suspense, avec pour conséquence de réduire l'analyse du fond des programmes et des politiques menées à de simples, voire même de simples pistes, enjeux de pouvoir et à des querelles de personnes. Ainsi, dans les dernières nouvelles d'Alsace, toujours le 31 août, on nous dit qu'on se pose la question, que va faire Emmanuel Macron? Sa démission est-elle un pas de plus vers la présidentielle? Quand va-t-il se déclarer? Avec quels appuis? Le Dauphiné Loubéré nous apprend que le ministre sortant a essayé de ne pas partir trop fâché avec François Hollande et que du côté de l'Élysée, la rupture a tout de suite été consommée avec la nomination de Michel Sapin au ministère de l'économie. Esteclerc et le Républicain Lorrain nous annoncent un nouveau coup dur pour Hollande qui voit ainsi surgir un potentiel rival pour 2017. Ou encore Le Monde du 1er septembre qui rapporte les propos du président de la République à propos de Macron. Il m'a trahi avec méthode. Alors, on peut signaler le titre de une de la Nouvelle République, toujours du 31 août, qui exprime au fond de façon un peu involontaire et l'emballement médiatique autour de rien, en fait, et qui cite et qui dit « Macron en marche, mais vers quoi ?» Alors, cette surexposition médiatique a continué de plus belle, hein, depuis avec la candidature déclarée d'Emmanuel Macron à la présidentielle, et a donné lieu à un nouveau déferlement de couvertures et d'articles complaisants et dociles à l'égard de ce candidat. Au final, et en l'espace de 6 mois, on va dire, hein, le traitement médiatique autour de la personne de Macron a illustré de manière exemplaire, au fond, les pires dérives d'un journalisme politique qui est réduit aujourd'hui au rôle d'une chambre d'écho médiatique pour les 2 ou 3 candidats les plus rentables sur le plan de l'audimat. Et ceci, bien sûr, hein, au détriment d'un traitement plus pluraliste et plus démocratique de l'information. Pour conclure, on pourrait dire que l'hyper-médiatisation de Macron s'explique peut-être aussi par la manière dont cet homme politique combine des propriétés qui sont bien faites pour séduire les grands médias. À savoir une adhésion profonde d'abord à l'ordre social et à la vision néolibérale, hein, mais drapée au fond derrière une image de modernité et de rébellion de pure façade. Il n'en faut peut-être pas plus pour devenir l'énième, nouvelle, jeune et jolie coqueluche du parti, de la presse et de l'argent.
Merci. Alors,
ouais, moi pour vous accompagner, j'aimerais vous proposer de relire ou de lire cette nouvelle d'Isaac Asimov qui est sortie en 1955 dans la revue IF sous le titre Franchise. Aujourd'hui, c'est le passager clandestin qui nous repropose à voter d'Asimov dans une chouette petite collection 10 chroniques. Moi, j'aime bien déjà parce que c'est des textes des années 50, 60 et 70 sur la science-fiction, sur de l'anticipation. Et puis parce que c'est un petit cadeau sympa, on est autour de 4, 5, 6 euros, enfin c'est des petits prix. Je pense que pour votre soirée de réveillon, ça peut être un bon moyen de lancer le sujet. Alors de quoi il nous parle, Isaac Asimov? Eh bien, il nous parle d'une société où c'est une machine qui va donc élire le président des États-Unis d'Amérique. Ça se passe en 2008. Et en fait, c'est un seul ou une seule citoyen qui va voter pour les autres. Et dans ce petit texte, hein, parce que c'est tout petit, hein, comme vous pouvez le voir, dans cette collection, on est à 50 pages, hein, donc on est vraiment sur de la nouvelle. C'est Norman Mueller de Bloomington qui est choisi. Et en fait, Isaac Asimov nous parle déjà de cette absurdité, une machine qui va décider. Et puis Norman va se retrouver avec des questions stupides, parce qu'il est le représentant de tous les Américains des États-Unis d'Amérique. Et c'est un questionnaire qui va durer pendant 3 heures. Et là, c'est pareil, Isaac Asimov nous parle des sondages, en fait. Parce que cette machine analyse les réponses aux questions. Juste pour vous lire un petit extrait, excusez-moi, comme ça vous mettra dans l'ambiance. Normal s'exprime, mais je ne veux pas de cette responsabilité. Pourquoi m'avoir désigné, moi? Bon, dit Handley.
C'est l'agent secret qui l'accueille. Bon, dit Andley, mettons donc les choses au point dès le début. Multivac évalue toutes sortes de facteurs connus, des milliards de facteurs. L'un de ces facteurs, cependant, est inconnu et le restera longtemps, c'est la réaction type de l'esprit humain. Tout Américain est soumis à la pression de ce que d'autres Américains font ou disent, de ce que l'on lui fait, de ce qu'on lui fait aux autres. On peut amener n'importe quel Américain à Multivac pour faire examiner la tendance générale de son esprit et d'après cette tendance, évaluer celle de tous les autres habitants du pays. Certains Américains sont plus qualifiés que d'autres pour cet examen, à un moment donné qui dépend des événements survenus au cours de l'année. Multivac vous a désigné comme le citoyen le plus représentatif pour cette année. Non pas le plus intelligent, le plus fort ou le plus chanceux, mais simplement le plus représentatif. Or, nous ne pouvons pas remettre en question les décisions du Multivac, n'est-ce pas ? Voilà, donc c'est un chouette petit texte qui nous parle des élections, qui nous parle des sondages, qui nous parle de la machine. En 50 pages, je trouve que c'est très moderne, ce texte de 1955. Voilà, c'est à souffrir et à offrir.
Enfin, les sondeurs, ils sont quand même plus efficaces. Ils ne questionnent pas qu'une seule personne, mais à peu près 1000 à chaque fois. C'est quand même 1000 fois plus précis, non ? C'est pas ça ?
Si, si, c'est ça.
1000 personnes représentatives, bien sûr, d'une population. Et... hein, on n'est que 60 millions en France. Bon, 1000, c'est bon. Mais il paraît que c'est représentatif. Hein.
Je vous propose juste de continuer avant de passer à quelque chose d'un peu plus environnemental avec Laurent et un peu plus nucléaire. Parler un petit peu de ce qui se passe dans le monde au niveau de la presse et des médias, si vous le voulez bien. Reporters sans frontières nous a fait un petit bilan des journalistes tués dans le monde pour 2016. Nous en sommes à 74 journalistes professionnels ou non qui ont été tués alors qu'ils se trouvaient en reportage. Alors il y a toujours ce côté un peu ambivalent qui nous embête un petit peu à Radio Canu avec Reporters sans frontières, c'est ces fameux journaliste professionnel ou non, c'est-à-dire que quand ça se passe dans un pays en guerre, en dictature, en difficulté, sous un régime autoritaire, un blogueur va devenir un journaliste non professionnel, voilà, mais en tout cas rapporte l'information.
Alors qu'en France, à Lyon, un journaliste de Radio Canu qui se fait arrêter pendant une action faite par d'autres, qui fait un reportage, il ne le considère pas comme un journaliste, il refuse de répondre, il refuse de prendre parti, ce qui est arrivé une fois hein, à un journaliste de Radio Canu. Donc, parce que comment on définit un journaliste ? Effectivement, ils ont cette démarche de dire qu'en France, il faut une carte de presse, sinon t'es pas journaliste. Ou il faut bosser pour, à un moment, faire des piges, quoi. Donc, effectivement, ils ont toujours une définition qui... Mais peut-être que c'est pas que eux, d'ailleurs, que c'est très difficile de définir qui est journaliste ou qui l'est pas. Parce qu'un blogueur, c'est pas forcément un journaliste, mais avec l'impact qu'il fait, avec les choses qu'il peut écrire, peut devenir, et finalement, peut-être que toutes les personnes peuvent et devraient être considérées comme des journalistes. Et donc, dès que quelqu'un est empêché de parler, eh ben, ça devrait rentrer dans le quota, finalement, presque.
Ouais, mais nous, on est trop militants pour eux. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans le factuel, et c'est un petit peu, je pense, ce qui gêne Reporters sans frontières. Juste pour dire qu'en 2015, Reporters sans frontières, sur la même base du coup d'analyse, avait compté 101 personnes tuées, journalistes professionnels ou non. Alors, on pourrait se dire, ouais, 74, c'est vachement bien, on a baissé. Reporters sans frontières a raison d'analyser que cette baisse n'est pas forcément une bonne chose. Il faut se rappeler qu'il y a beaucoup de pays dans lesquels il n'y a plus de journalistes internationaux, en tout cas. Donc ça fait chuter. Et oui, le chiffre, c'est un peu bête à dire, mais c'est comme ça. Et puis, au niveau local, il y a beaucoup de journalistes et de médias qui ont connu la censure ou l'autocensure. Et donc, voilà, les choses aussi, tant mieux pour eux, ils ne sont plus assassinés. Mais ça n'a pas rendu l'information meilleure. Les droits, la liberté de la presse n'est pas meilleur. Donc c'est un chiffre un peu en trompe-l'œil. Le Mexique est le pays le plus meurtrier pour 2016 avec 9 tués, mais la Syrie reste le pays qui a battu tous les records sur ce 21e siècle. 62 journalistes, alors là encore il y a cette séparation, je vais la prendre comme telle de la part de Reporters sans frontières, et 152 citoyens journalistes, c'est pas mon expression, c'est celle de Reporters sans frontières, et collaborateurs de médias ont été tués depuis 2011. Donc c'est le pays aujourd'hui le plus dangereux dans lequel il est difficile de travailler, mais on pourrait parler de l'Irak, de la Libye, de Yémen, de l'Afghanistan.
Grosso modo, les pays en guerre, ce qui paraît logique.
Oui, mais pendant très longtemps, il y a eu des journalistes dans les pays en guerre. Aujourd'hui, il y a la guerre, mais il y a aussi la répression dans ces pays qui est très très forte. Alors, je vais vous donner des nouvelles un petit peu comme ça, que j'ai chopées, que j'avais mis un peu de côté. Certaines sont récentes. J'avais envie de vous parler de Radio Jupiter. On part à Madagascar. Le 8 décembre dernier, il y a des militaires qui sont rentrés dans les locaux de Radio Jupiter à Isla Jacques Caca, c'est le donneur du pays. Ils ont confisqué l'émetteur de la radio, pris le matériel informatique, c'est-à-dire que la radio n'émet plus, soyons très clairs. Ils étaient venus surtout chercher Fernando Seyo, c'est un journaliste. Il a pris la fuite. Depuis, il est rentré en clandestinité. Ça paraît quand même incroyable de se dire que tu fais de la radio et demain tu rentres en clandestinité. Alors, le journaliste aurait tenu des paroles portant atteinte de manière délibérée et répétée à l'ordre public. Il est aujourd'hui donc sous mandat d'arrêt. Tout ça pour un reportage environnemental qui dénonçait une exploitation minière locale qui est détenue par la société Gondwana. Alors, il faut savoir que il y a les habitants, les exploitants ont été chassés de leurs terres, la rivière à côté est polluée, donc il y a de quoi faire du reportage quand même. Et c'est ça qui va te plaire, Laurent, c'est que les militaires sont venus ensuite récupérer les panneaux solaires qui alimentaient la radio, parce que la radio avait dû s'équiper pour être autonome, puisque l'entreprise privée d'électricité Mariella avait coupé l'alimentation de la radio après qu'une émission de Fernand Seyo avait dénoncé des malversations entre l'entreprise et le maire de la ville. Donc ils étaient devenus autonomes.
On risque rien à Radio Canu, puisqu'on dénonce EDF, mais on n'achète pas l'électricité EDF.
Non, et puis bon, on reste quand même en France. Je pourrais vous dire qu'aux Philippines, 138e place du classement mondial de la liberté de la presse selon RSF, c'est le chroniqueur et éditeur du journal Contandwenes News Now. Contandwenes est une ville, Larrikié ou Kwe, je ne suis pas sûre, qui a été assassiné lundi. Il y a des hommes armés qui étaient en moto qui lui ont tiré dessus. Il est mort mardi matin de ses blessures. Il avait critiqué la négligence d'officiers de police lors d'un raid sur un laboratoire de méthamphétamine. Ça n'a pas plu, a priori. C'est le premier mort depuis que nous avons ce charmant monsieur à la tête des Philippines. On espère qu'il n'y en aura pas d'autres. Je vous rappelle que Roberto Duterte avait menacé et insulté de fils de pute les journalistes en disant qu'ils n'étaient pas à l'abri si jamais on découvrait des choses sur eux. Bon, il aime un peu traiter tout le monde de fils de pute, vous allez me dire.
Et il aime bien tuer les gens, il l'a dit aussi.
Oui, d'ailleurs, il y a une enquête qui pourrait être menée sur ces déclarations que, justement, où il explique qu'il a lui-même utilisé les armes et mis à mort des gens. Vous pouvez aller lire le très très bon rapport d'RSF sur l'Algérie, ça s'appelle Algérie, la main invisible du pouvoir sur les médias, c'est sorti aujourd'hui et c'est disponible en PDF sur le site de cette organisation.
Ça vous permettrait peut-être de comprendre un peu ce qui est arrivé à notre animateur, qui a été arrêté,
exactement,
qui a été arrêté à l'aéroport, juste pour l'embêter, pour lui mettre la pression, pour lui dire on sait qui t'es, et lui faire rater son avion, qui fait une émission berbère le samedi soir. Effectivement, il doit se retrouver pas mal dans ce rapport.
Ouais, voilà, non, c'est très intéressant. Je vous en parle pas plus parce que, franchement, c'est à lire. Vous pouvez même en lire que des petits bouts au fur et à mesure, jusqu'à la fin de vos vacances. Vous verrez, c'est pas mal. Tout ça pour dire que ça s'améliore pas en Algérie et que il y a à la fois une censure, des emprisonnements, une auto-censure, des fermetures de médias. On s'en prend financièrement, comme dans beaucoup d'autres pays, aux médias, parce que c'est un moyen assez facile finalement de faire fermer un média quand tu lui coupes ses moyens financiers. Tout à l'heure, tu nous disais que ça risquait de faire perdre des points en début d'émission. La Pologne a perdu des points dans le classement mondial de la liberté de la presse d'RSF. La Pologne est 47e en 2016. La Pologne a perdu 29 places.
C'est pas mal. La Turquie a dû perdre un peu quand même.
Oui, mais là je te parle de la Pologne. Tu sais que le parti Droit et Justice fait quand même un petit peu polémique presque chaque semaine avec des nouvelles propositions de loi. Le dernier dossier, c'est l'accès des médias à la chambre basse du Parlement, ce qu'on appelle la diète. Alors la loi proposée par le gouvernement sur les médias privés prévoit que le nombre de chaînes de télévision autorisées à enregistrer les séances au Parlement seront réduites à 5 et le nombre de journalistes accrédités à 2 par organe de presse, qu'il y aurait un accès limité à la salle de presse dans l'hémicycle. Donc en fait, c'est encore un moyen en Pologne de couper la démocratie, c'est-à-dire que ce qui se passe là-bas dedans avec les politiques, ça va rester cloisonné, fermé, et puis on va laisser les médias à l'extérieur. Donc il y a encore eu des manifestations. Le gouvernement a fait un pas en arrière, sauf qu'il va revenir, le gouvernement, avec un grand pas en avant en janvier, avec une nouvelle proposition de loi. Enfin, c'est à peu près la même, on peut penser. Donc les gens vont certainement redescendre dans la rue. Et puis, j'aimerais vous parler du pays qui occupe la première place au classement mondial de la liberté de la presse. C'est vachement bien, la première place sur 180, c'est la Finlande.
Bah oui, il y a une liberté totale.
Tellement totale qu'il y a deux journalistes de la radio publique finlandaise, Yle, Jussi Eronen et Salia Vyurikoski, veuillez m'excuser, je n'ai pas fait finlandais, je vous prie vraiment, je suis désolée, qui ont décidé de démissionner. C'était la semaine dernière, c'était mercredi dernier. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que en Finlande, il faut savoir qu'il y a un petit scandale politique, ça touche le Premier ministre, M. Sipilä, qui aurait eu un petit conflit d'intérêts entre ce qu'il fait au gouvernement et ses positions personnelles. C'est-à-dire qu'il a donné de l'argent à une société minière afin d'éviter une faillite, mais a priori, il a des parts dans la société minière. Donc, vous voyez, bon, il s'est un petit peu protégé lui-même. Et évidemment, la radio publique finlandaise a décidé de faire des reportages sur la question. Et apparemment, la direction de la radio a reçu quelques explicatifs sur la manière dont il fallait traiter, ou plutôt dont il ne fallait pas traiter ce sujet. Ça a eu le don d'écœurer ces deux journalistes. Jussi Eronen estime avoir subi des pressions de la part de ses supérieurs. On lui a demandé de réduire le nombre de reportages, puis finalement, je crois, de les annuler, si j'ai tout compris. Salia Vyurikoski, je me redonne du mal, a dénoncé de son côté une politique de prudence. C'est de l'autocensure, hein, c'est ça en fait. Elle emploie ce mot de politique de prudence. Nous ici, on va parler d'autocensure, tout simplement. Donc, ils se sont barrés, tout simplement. Ils ont dit que c'était inacceptable, qu'ils ne pouvaient plus travailler. Voilà, et on est dans le pays qui est en tête de liste.
Et en tête, ça ne veut pas dire qu'ils sont parfaits.
Eh ben voilà, exactement. C'est bien ça qu'il ne faut jamais oublier. C'est que premier ne veut pas dire que tu es super et parfait. Et que même un Finlande qui est pourtant connu comme un pays libre au niveau de sa presse et de son droit d'expression, eh ben, vous voyez, il y a des choses qui ne passent pas.
Ouais, mais enfin, il y a... Bon. La Turquie, par exemple, a beaucoup de marge pour atteindre la Finlande.
Oui, ouais. Beaucoup. Puis ça risque pas de s'améliorer.
Non, a priori, non. Juste pour, peut-être pour terminer, parler de Radio Canu.
Eh oui, puisque nous aussi, nous avons eu des soucis.
Alors, Radio Canu, il y a eu quelques petites affaires. L'animateur algérien, pas algérien, qui a arrêté en Algérie, qui fait une émission kabyle, a eu des soucis. On a un animateur d'une émission du jeudi soir qui est poursuivi pour des propos sur la police que le procureur a mal vécu, je crois.
Ouais, enfin, je crois que c'est la police qui a mal vécu l'humour.
Voilà,
en fait.
Aussi. Voilà. Et dernièrement, c'est la deuxième fois que ça arrive, toutes les vitres de la devanture de Radio Canu, donc c'est arrivé vendredi, dans la nuit de vendredi à samedi, la semaine dernière, ont été entièrement cassées. Donc avec un outil, puisque on a une vitre sécurite sur la porte, puisqu'elle avait déjà été cassée d'une précédente attaque. Il y avait une dizaine d'impacts de cet outil. La vitre n'a pas pu casser, parce que c'était une vitre qui ne cassait pas.
Enfin, l'autre a cassé.
Et l'autre, qui était une vieille vitre, qui datait sûrement de plusieurs décennies. Peut-être que c'était un monument historique. On a pu garder cette vitre.
Patrimoine.
Ça
ne
se fabrique plus comme ça. Mais bon, bref, il y a des endroits où on a l'impact de l'arme, enfin, du truc qui ressemble à une manche de pioche ou un truc comme ça, qui a permis de casser. Donc, il y a eu une attaque. Bon, on n'a pas.
Ce n'est pas revendiqué. Nous ne savons donc pas le pourquoi, le comment.
Un voisin énervé,
non,
ou plus probablement.
Tout. Moi, je ne crois pas ça. C'est des rumeurs pourries. Nos voisins sont très gentils. Il faut arrêter.
Ouais, alors ça se rediscute. Toi, tu n'es pas là le vendredi soir. Hein. Je peux
j'essaye témoigner. De calmer le débat là-dessus. Non, très sincèrement, non, là, il y a des gens qui ont volontairement. Des fois, vous savez, vous pouvez douter sur une vitrine quand vous avez un seul impact que quelqu'un de bourré, surtout dans un quartier comme Radio Canus, se soit pris la vitre. Là, il ne s'agit pas d'un coup de pied, il s'agit d'une attaque systématique pour défoncer les vitres.
Et puis, la vitre n'est pas accessible puisqu'il y a une grille.
Donc, il fallait quand même se donner du mal.
À travers les barreaux pour taper sur la vitre.
Reste qu'effectivement, on ne sait pas qui.
Quel groupe d'extrême droite est venu faire ça.
Voilà, qui peut être visé ici d'une manière générale ou d'une manière plus personnelle. Reste que ça nous a bien agacé quand même de voir nos locaux saccagés.
Ouais, tout à fait. Mais bon, on résiste.
Si vous croyez qu'on n'a que ça à faire, faire jouer les assurances et puis devoir changer les vitres, non mais sérieux, nous on fait de l'info quoi. Non, on remercie ceux et celles qui s'en occupaient.
Voilà, on va poursuivre ce petit Canu Info en terminant avec des infos environnementales. Je vais revenir, parce que alors pour le coup, la propagande des médias dominants a été très très belle et très très forte aujourd'hui.
Ah oui, alors moi j'ai bien écouté.
Ségolène Royal. Ah, Ségolène Royal. Vous savez, cette, comment dirais-je, ministre de l'écologie qui n'y croit pas, à l'écologie, mais qui fait semblant. Bon, c'est dit, c'est pas la première, ce sera peut-être pas la dernière non plus. Mais bon, elle est allée à Tourour au Perche. Bon, vous êtes comme moi, vous n'êtes jamais allé à Tourouvre au Perche. C'est dans l'Orne. Donc vous êtes peut-être comme moi, vous n'êtes jamais allé dans l'Orne. Bon, c'est en Normandie. Alors peut-être que vous êtes quand même allé en Normandie. C'est pour situer un petit peu le truc. Donc elle a inauguré cette route de 1 km de Lyon. Donc un kilomètre, ça fait 2800 mètres carrés, nous dit-on. Alors c'est le responsable de l'installation qui nous dit ça. Et qu'est-ce qu'ils ont installé sur ces 1 km ? Des panneaux solaires sur une route. Alors on vous a dit quelle idée, tout ça, bon bref, elle porte ce projet avec une espèce de passion, une espèce d'amour complètement déplacé. Et donc, elle est allée inaugurer ce petit tronçon de route, qui est un tronçon de route expérimental, pour l'installation de cette société qui s'appelle Colas Watway, une filiale du groupe Bouygues. Oula, tiens, ça nous met la puce à l'oreille, Bouygues. Ils sont pas mal dans les médias aussi, hein, quand même. Ils possèdent certains trucs. Bon, ce qui est bizarre, c'est que ce projet, il a déjà... Donc, elle en a parlé plusieurs fois. Alors, c'est la troisième fois en 6 mois qu'elle y va, là-bas. Donc, je demande si elle n'a pas des parts dedans, quand même, ou s'il n'y a pas un truc derrière. Parce que le projet, il est totalement aberrant. Ils annoncent des chiffres, elle annonce des chiffres qui sont incroyables. 17 963 kWh produits par jour sur ce bout de tronçon d'un kilomètre, ce qui alimenterait une ville de 5000 habitants. Enfin, de 5000 maisons, quoi. On se dit, mais elle est folle, 1 km, 5000 maisons, on va en foutre partout, on va alimenter la France, quoi. Bon, sauf qu'en fait, même le mec de Colas Watway, quand il donne les chiffres, c'est beaucoup plus bas, c'est 767 kWh, grosso modo 20 fois moins. Bon, bref, cette route de 1 km, elle pourrait alimenter, on va dire 50 maisons. Non, dans le meilleur des cas. Bon, par contre, ça fait un petit peu cher, hein, parce que le prix étant énorme, ça fait à peu près 100 000 euros par maison. Pour fournir de l'électricité. Alors, c'est un peu comme si on construisait quelque part un réacteur nucléaire pour chaque ville, en fait. Donc, c'est un peu hors de prix. On comprend pas pourquoi elle défend ce projet-là, qui a aucun sens. Alors, elle se prend tout le monde en pleine gueule. Alors, les médias lui ont servi la soupe aujourd'hui. Par contre, du côté des écolos, pas du tout. Même des écolos capitalistes, hein, on a notamment des groupes comme le Bloomberg New Energy Finance, donc un groupe voilà qui veut faire du développement durable et gagner de la thune avec, hein, parce qu'ils ont bien compris qu'il y avait de l'argent à se faire. Mais c'est un argent plutôt positif, hein, parce qu'ils vendent du solaire, eux. Ils disent, il faut arrêter, hein. Si on a besoin de surface, si on manque de surface en France, eh ben, il y a des toits disponibles de partout, il y a des dessus de parking de supermarchés partout disponibles. Enfin voilà, ils ont fait des calculs. Il y a pas de souci de pour ça. Alors eux, ils sont allés carrément plus loin. Dans les calculs, ils ont dit, on va calculer combien ça va coûter au final. Alors, le retour sur investissement, c'est 170 ans, son projet de route. Ça fait un peu beaucoup. À savoir que les panneaux solaires, ça ne vit pas 170 ans. Un panneau solaire posé sur une maison, c'est-à-dire sans contrainte mécanique d'un camion qui va rouler dessus, hein, ça dure, ouais, la période bonne, c'est 20 ans, et ça dure 40-50 ans, quoi. Là, 170 ans, on se dit non, ça marche pas, leur truc, c'est pas rentable. Ben oui, mais ils le financent quand même. Alors, ils le financent, je veux dire, non. Et l'entreprise, ils le financent pas. C'est l'État qui le finance, c'est-à-dire les impôts, c'est-à-dire nous qui finançons ce projet, qui est complètement aberrant. Donc voilà, il y a un truc louche derrière tout ce qui est en train de se passer là-bas. On n'a pas les tenants et les aboutissants du pourquoi Ségolène Royal va défendre ce projet qui a aucun sens, qui a aucun sens écologique et qui a aucun sens économique, puisque ça sera jamais généralisé vu le prix que peut coûter ce petit tronçon de route d'un kilomètre, hein, qui se monte en millions d'euros, hein, puisqu'on est à 5 millions d'euros pour le kilomètre. Donc bref, un truc aberrant aujourd'hui. Voilà. Et alors, une nouvelle marrante. Il faut bien que je vous trouve un truc marrant, parce que sinon, dans la rubrique environnement, on pleure tous les jours, toutes les semaines. Il y avait un projet super régressif sur les perturbateurs endocriniens. Donc, les perturbateurs endocriniens, c'est ces produits qu'on trouve un peu de partout, qui se trouvent dans certains pesticides, mais qui se trouvent dans aussi plein d'autres produits qui perturbent la reproduction animale. Donc dans les animaux, il y a aussi les êtres humains, donc ça perturbe la reproduction de tout le monde un petit peu. Et la Commission européenne devait proposer, c'était hier que c'était voté, une nouvelle proposition de loi, de future loi pour les perturbateurs endocriniens. Et la proposition était hyper régressive, puisqu'ils mettaient en exception certains pesticides, parce qu'ils étaient ouvertement perturbateurs endocriniens, parce que c'était le but, c'était de perturber la reproduction des insectes, bah de nous en même temps aussi, mais donc il fallait eux les enlever, ce qui enlevait énormément finalement de produits dangereux de cette liste des perturbateurs endocriniens. Alors ça devait être voté hier. Et puis, ils n'y sont pas arrivés.
Ben ouais, c'est incroyable. Hein.
40%
j'y ai pas cru, moi.
Favorables au vote et donc 60% contre. Du coup, ils n'ont pas pu voter. Ils ont droit de revenir en deuxième séance avec un autre projet. Alors, je ne sais pas si l'autre projet sera mieux, s'ils arriveront à faire du lobbying pour faire changer d'avis certains pays comme la France qui a été contre. Alors que l'Allemagne, par exemple, était pour. Hein, parce que les lobbies industriels allemands étaient plus forts que les lobbies industriels français, a priori. Mais bon, voilà, c'est quand même une bonne nouvelle intermédiaire en attendant d'avoir une vraie loi pour lutter contre ces perturbateurs endocriniens. Et puis, les dernières petites infos nucléaires, un petit peu.
Oui, alors, je dois avouer, sur mon papier, j'ai EDF, fromage, Japon. Alors, ouais. Le fromage, c'est un peu comme les girafes tout à l'heure, si tu veux, enfin, que tu m'expliques ce que fait le fromage entre EDF et le Japon. Quoi.
Ouais, alors, le Japon,
que Japon, j'ai un peu une idée,
on imagine, hein, le Japon. Hein, ça,
EDF, c'est... j'ai bien aussi l'habitude. Voilà. Le fromage, je ne sais pas.
Alors, EDF, c'est un lien indirect avec le nucléaire, mais c'est un lien avec ce qui se passe en interne dans l'entreprise, puisqu'un sondage, alors, vous allez m'engueuler, les sondages, c'est pourri. Alors là, c'est un sondage. Non, mais je suis d'accord avec vous. Mais là, c'est un sondage qui fait en interne dans l'entreprise.
Et on est comme les autres, hein, quand les sondages ils sont favorables à nos idées, on s'en sert. Hein.
Non, non, mais alors là, c'est pas du tout fait comme ça. C'est un sondage qui est proposé à 100% de la population. Ah. Donc là, à 100% des salariés d'EDF. Et d'habitude, c'est à peu près 2/3 des salariés qui répondent. Et là, ils ont dépassé le 2/3, ils sont à 78%. Donc là, les gens, cette année, étaient motivés. Et la question qui est posée, c'est bon, il y a plusieurs questions, mais est-ce que vous avez confiance dans votre entreprise, vous êtes content d'être à EDF, tout ça? Alors, d'habitude, les chiffres sont plutôt bons. En 2012, 81% des salariés d'EDF étaient heureux. En 2015, c'était un peu moins, c'était 74%. Et là, aujourd'hui, c'est tombé à 53%. Du coup, ils ont enterré le machin, pour pas que ça sorte, mais quelqu'un a dû balancer. Donc aujourd'hui, il y a à peu près, un peu plus de la moitié des salariés d'EDF qui sont contents et qui ont confiance dans l'entreprise. Ça fait quand même mal. Hein. Donc là, le PDG Jean-Bernard Lévy, il s'est pris un coup de boule, hein, on peut le dire. Je pense qu'il est assis au fond de son siège, il boit du whisky pour oublier. Mais parce qu'effectivement, toute sa stratégie, notamment, qui a été pas mal remise en cause, notamment par des cadres, ce qui n'était jamais arrivé à EDF, hein, parce qu'il faut savoir qu'il y a une politique d'entreprise avec pas mal de propagande en interne qui font que... Alors ça, c'est la première truc. Et deuxième chose, les cadres, notamment, sont choisis aussi avant pour être dans le bon moule, etc. Ce qui fait qu'il y a assez peu de rébellions. Et les derniers projets, notamment le Hinkley Point en Angleterre, qui est un projet qui est économiquement aberrant, construire ces deux nouvelles centrales nucléaires avec des coûts de production de l'électricité plus chers que n'importe quel truc environnemental, ont posé des questions, même à des gens haut placés. Et ben ça se voit, du coup, 53% des salariés ont plus confiance dans l'entreprise. C'est mal parti quand même. Hein. Il a du boulot, le Jean-Bernard Lévy.
Alors, le roquefort est radié. Non, c'est pas ça.
Donc, le fromage. Ah, on va parler fromage un peu. C'est simple. Alors, je l'ai mis dans le nucléaire, mais en fait, c'est pas lié du tout au nucléaire. Hein, c'est lié à l'environnement. Mais si c'était mieux au milieu.
Voilà, ça m'a questionné.
Ça
du
marchait
coup,
mieux de faire
c'est bien,
EDF,
c'est du bon marketing.
Japon.
Maintenant, ouais. J'ai envie d'en savoir plus, quoi.
Alors, en quoi le fromage peut être utile? Alors, le fromage. Alors, on va parler d'un fromage. Il faut que je me remette dans mon truc. Donc, je vous rappelle, je refais un petit topo sur la production d'énergie électrique. 75%, grosso modo, centrale nucléaire et 12% sur l'hydraulique, ça c'est le gros de la production en France. Panneaux solaires, éoliennes, tout ça, c'est 4-5% quand tout va bien, donc c'est très minime. 7% c'est le gaz et le charbon, on a encore quelques charbons, mais c'est la fin, bon, c'est le reste c'est le gaz. Voilà actuellement les chiffres de production de l'électricité en France. Donc c'est un lien avec le nucléaire, hein, parce que c'est quand même 75% le nucléaire. Et Ségolène Royal a fait voter à l'Assemblée une loi là, qui a pour but de réduire la part du nucléaire dans le mix énergétique. Le but, hein, c'est de descendre à 50%, je crois, en 2025, un truc comme ça. Et la question se pose, mais comment faire ? Alors, et il y a une proposition qui a été faite, c'est à Albertville, on va aller voir Albertville, donc on est en Savoie, et c'est la ville du Beaufort.
Ah, et d'où ouais. Le fromage.
D'où le fromage. Alors, mais ça va être en lien direct avec cet excellent fromage, qui est le Beaufort. C'est quand on fait du fromage, il y a un résidu qui s'appelle le lactosérum. Donc c'est un sous-produit qui est chargé du gras, de protéines, qui sert à rien. Grosso modo, sur 110 litres de lait, quand on fait du fromage, bah, il reste 100 litres qui ne sert à rien. Donc jusqu'à maintenant, c'était soit jeté, soit donné à boire aux cochons pour engraisser quelques cochons qui pouvaient traîner dans cette région. Il n'y en a pas énormément non plus. Ils ont mis en place une nouvelle technique. C'est une entreprise qui s'appelle Valbio. Qu'est-ce qu'ils font ? Eh bien, ils donnent à manger à des bactéries ce lactosérum. Parce que c'est très nutritif du coup quand même ce truc qui reste et qui sert à rien aujourd'hui. Et ces bactéries, en échange, qu'est-ce qu'elles font ? Enfin, elles n'ont pas le choix, hein, je vous le dis. Mais on ne va pas se battre pour le droit des bactéries non plus. Hein. Donc elles créent à partir de ça du méthane notamment, et un peu de dioxyde de carbone. Et le méthane, ils le récupèrent et ils en font l'électricité. Donc, pas mal quand même comme concept. Donc avec la centrale qui est en construction, ils vont pouvoir produire 2,8 millions de kilowattheures d'électricité par an avec la production de fromage d'Albertville. C'est pas mal quand même. C'est beaucoup plus que les panneaux solaires sur la route de Ségolène Royal. Et c'est quand même un poil plus développement durable, on va dire, ou voire même écolo, quoi. Donc aujourd'hui, on peut alimenter une ville de 1500 habitants avec les résidus du Beaufort. Moi, je trouve ça classe. Voilà. Il faut terminer sur les choses positives dans cette année 2016. Quand vous mangerez du Beaufort, maintenant, vous penserez que ce qui reste, qui n'a pas servi à fabriquer votre fromage, va produire de l'électricité pour les gens qui habitent la région. Moi, je dis bien, pas mal. Voilà, c'est un beau projet. Voilà. Bon, ça veut dire qu'il y a des moyens de gagner de l'argent, parce que du coup, c'est une entreprise hein, qui est sur le coup, et de manière intelligente. Alors, ça a donné d'autres idées. Ce n'est pas les seuls à l'utiliser, ce procédé de création. Alors, ça s'appelle la méthanisation, hein, quand on crée du gaz à partir des produits agricoles. Il y a un potentiel qui est énorme. Il y avait eu une étude, il y a quelques années, faite par GRDF, la seconde entreprise là, qui distribue le gaz en France, qui avait dit qu'en fait, avec tout le système agricole français et toutes les chutes du monde agricole, on était capable de méthaniser, enfin de créer du méthane en quantité suffisante pour alimenter tous les foyers français avec la consommation actuelle. C'est-à-dire qu'on aurait pu arrêter, on pourrait arrêter à n'importe quel moment l'importation de gaz, en fait. Et surtout, le gaz créé par cette méthanisation, c'est un gaz qui, même si ça émet du CO2, c'est du CO2 qui est bon. Parce que de l'autre côté, les plantes vont repousser, les vaches vont remanger les plantes, c'est un cercle fermé, c'est un CO2 qui est émis mais qui est réintégré à l'autre bout de la chaîne. Donc voilà. Alors ça a donné des idées puisque en Indonésie, il y a un village qui a mis en place un système équivalent. Alors eux le font avec du tofu parce qu'un résidu de tofu, ils arrivent aussi à alimenter des bactéries qui créent ce méthane. Donc du coup, les véganes peuvent le faire avec du tofu et les
c'est ce que j'allais dire.
Les végétariens
en fait, c'est
avec
bien, ce projet,
du morbier. Tout le monde peut mettre en place son procédé de méthanisation à partir soit de son vrai fromage, soit de son tofu là, fait à partir sans protéines animales. Donc voilà, c'est plutôt un projet sympa. Et allez, dernière partie de ce Canu Info, un petit mot sur le Japon. Le Japon qui est connu pour sa catastrophe nucléaire, mais pas que pour ça quand même. Mais c'est bien de ça dont on va parler. Et c'est un début de bonne nouvelle. C'est un réacteur nucléaire qui s'arrête, qui s'appelle Monju. Donc qui a coûté 8... Alors le but c'est de l'arrêter, donc ça va coûter 8 milliards d'euros si j'ai bien tout compris. Ah non, c'est le coût depuis qu'il a été construit, je me trompe. 8,15 milliards d'euros. Alors Monju c'est un surgénérateur, nous on avait un petit équivalent sympa là, pas très loin, là, qui s'appelait Crémalville. Vous savez, l'idée de ces surgénérateurs, c'était qu'ils ne fonctionnaient pas à l'uranium enrichi, ils fonctionnaient notamment avec du plutonium, avec un assemblage et qui contenait notamment du plutonium, c'est-à-dire finalement du résidu des déchets des réacteurs nucléaires classiques. Et l'idée, c'était de venir entièrement autonome, autosuffisant avec ces réacteurs. On leur réinjectait les déchets des anciens réacteurs. Bon. Ça n'a jamais marché, il faut quand même le dire. Ça a été des gouffres industriels. Donc là, 8,15 milliards d'euros avec quasiment aucune production d'électricité. Hein, Crémalville en France, c'est pareil. Avec des réacteurs qui étaient hyper dangereux puisque la concentration énergétique était telle que l'eau, enfin la vapeur d'eau n'était pas suffisante pour transporter dans le circuit primaire l'énergie produite par le réacteur. Donc il fallait du sodium liquide. Sodium liquide avec 3000 tonnes, je crois, ou 3-4000 tonnes à Crémalville, alors qu'un feu de sodium liquide au-dessus de 150 kg, personne ne sait l'éteindre. Donc les prévisions avaient noté que si jamais ça s'enflammait, le sodium liquide, il y avait une destruction jusqu'en Suisse de Crémalville. Donc ça faisait un gros choc. À savoir que le sodium liquide s'enflamme à l'eau. c'est-à-dire à l'air, parce qu'il y a de l'humidité dans l'air. Donc c'est des process industriels aberrants, hyper dangereux. D'ailleurs, il y a eu plusieurs fois des fuites à Crémalville, où ils n'ont jamais d'ailleurs trouvé où étaient les fuites. Du coup, ils calfeutraient comme ils pouvaient pour pas que ça prenne feu. Enfin bon, ça n'a pas été glorieux chez nous. Eh bien, ça n'a pas été glorieux au Japon, et ils décident de l'arrêter, parce qu'ils arrêtent les frais. Hein, grosso modo, ils se disent, bon, ça marche pas. Ce qui est moins glorieux, c'est que le ministre, notamment un membre donc, du gouvernement actuel au Japon, dit que ça arrête pas totalement la technologie, qu'il pense à construire un nouveau réacteur, peut-être mieux. Bon. C'est donc pas totalement positif, mais c'est quand même une bonne chose. Je crois que c'était le dernier sur générateur à tenter de fonctionner dans le monde. Il y en avait eu à une époque en Russie, mais ça fait très longtemps qu'ils avaient arrêté aussi, parce que ça marchait pas non plus. Les Américains avaient bien abandonné aussi avant. La France s'est acharnée très longtemps, et là, le dernier pro-nucléaire dans le monde, le Japon, vient de lâcher. Même si bon, les propos du gouvernement laissent entendre qu'il y aurait peut-être une solution de sortie dans l'avenir, c'est pas sûr du tout, parce que il n'y a pas vraiment de potentiel pour ce genre de réacteur, vu la dangerosité et la complexité technique en fait à mettre en œuvre.
Voilà. Et écoute, avec une dernière info radioactive, ça se passe en Corée du Nord. En Corée du Nord, il y a, peut-être vous le savez, le mont Paekgu. Le mont Paekgu, c'est un mont qui est adoré par tous les Coréens, que ce soit du Sud ou du Nord. Ça fait partie de leur tradition. Ça fait partie du folklore sud-coréen. Et en Nord, je vous rappelle que un des grands dirigeants serait né sur le mont Paekgu. Donc, il a maintenant toute une autre symbolique que plus forte hein, de cette dynastie des Kim. D'après ce que savent les renseignements étrangers, juste à côté du mont Paekgu, il y a une installation pour les recherches sur cette fameuse bombe sale atomique que voudrait la Corée du Nord. Et le mont Paekgu est un mont qui pourrait justement réexploser puisque c'est un volcan. Et en fait, avec cette installation à côté, ça aurait fragilisé le mont Paekgu, qui pourrait donc exploser plus vite que ce que les spécialistes attendaient. L'autre interrogation, c'est de ce qui se passe si jamais le mont Paekgu explose par rapport à des installations nucléaires. Tu as tout compris à mon raisonnement. C'est un enjeu très important. Il y a des équipes internationales qui essayent de se rendre sur le mont Paekgu, des scientifiques, hein, des universitaires, pour savoir ce qui va se passer et à quel point ce mont Paekgu pourrait être touché par ces essais nord-coréens. Ça va, vous êtes rassuré, vous êtes content?
Écoute,
il a tenté avec son fromage, hein, de vous mettre un petit peu bien, allez, à l'aise.
On va aller manger du Morbier pour soutenir la production.
Du Beaufort,
pardon.
Tu t'es trompé déjà tout à l'heure.
Du Beaufort. Pour soutenir la production électrique d'Albertville. Voilà. Eh ben, merci pour ce qui nous info.
Merci à vous deux d'être venus, Pascal et Jacques. C'est toujours sympa de vous avoir avec nous. Nous, on sera là la semaine prochaine.
Tout
pas de
fait.
Vacances pour nous. Jusqu'au dernier jeudi de 2016. Voilà. Bouffez bien de la papillote, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je te regarde, oui, toi, oui, mange bien de la papillote, Laurent. Tu as déjà bien commencé, je
Exactement,
crois.
Les Kenyu Info, c'est tous les jours de la semaine, normalement 19h-20h, et peut-être que demain, à 19h, il y aura le prochain Kenyu Info, si l'équipe n'est pas partie en vacances.
Ciao, ciao.
Bye, bye. Ciao. Au revoir.